France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi. Marie-Sophie Ferdan. Elsa Boublil.
Au les cœurs.
L'introduction d'Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss, dirigée par le grand Gustavo Dudamel, que l'on pourra entendre dans la série Philharmonia, diffusée à partir du 23 janvier sur France 2. L'histoire d'un orchestre national dans la tourmente depuis la mort brutale de son chef, et de cette chef d'orchestre, Hélène Barizet, qui revient à Paris pour prendre la tête du Philharmonia après 20 ans d'absence. Elle est nommée contre l'avis des musiciens et du directeur, et cette femme aux méthodes atypiques a une saison pour faire sa place et sauver l'orchestre qui est réputé pour être un tueur de chef. Et c'est vous, Marie-Sophie Ferdan, qui incarnez le rôle de cette chef. Bonjour.
Bonjour.
Vous incarnez donc cette chef, vous dirigez, je crois, Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss dans Philharmonia. Chef d'orchestre, apprendre à diriger, comme ça on va pouvoir en parler, mais c'est difficile à diriger Ainsi parlait Zarathoustra.
Oui, c'est pas facile. C'était pas la partie la plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'œuvres. Et puis c'est un moment très court dans la série, mais c'est un souvenir marquant.
Alors c'est vrai que c'est l'occasion, cette série aussi, pour faire entendre les grandes œuvres du répertoire classique. C'est un bonheur. On en entend un peu. France Musique est partenaire de l'événement. Et d'ailleurs, le 23 janvier, France Musique consacrera une journée entière à cette série qui démarre donc ce jour-là. Vous êtes ancienne comédienne du Français. Vous avez démissionné, je crois, en 2013. On vous voit au cinéma, au théâtre récemment, dans La Dame aux Camélias, mise en scène d'Arthur Nosiciel, d'ailleurs toujours, je crois. Oui. Et puis à partir de la semaine prochaine, à la télévision, sur France 2, dans cette série de 6 fois 52 minutes, entourée de Lina El Arabi, Thomas Sisley, Laurent Bateau, Charlie Bruno, François-Vincent Elly, Tom Novembre, Guillaume Dolmans et la participation de Véronique Jeannot et Jacques Weber. Et on va pouvoir en parler pas mal, puisque c'est l'occasion aussi de connaître un petit peu, de découvrir le monde de la musique. Vous avez découvert un peu comment ça se passait, ou vous connaissiez déjà plus ou moins?
Je connaissais parce que j'ai eu la chance enfant de recevoir une formation conservatoire en violon, ouais. Et de participer à un orchestre d'enfants et d'adolescents, et je faisais aussi de la musique de chambre. Donc je connaissais le monde, mais du point de vue de la musicienne, et puis musicienne enfant. Et là, de passer de l'autre côté, bon, ça change la perspective.
Au les cœurs, pourquoi?
Parce que c'est une expression que j'ai souvent entendue enfant. que je comprenais pas tellement parce que je trouvais pas ça logique. Haut les cœurs, vous savez, quand on est enfant, on visualise les mots. Je me disais, alors il faut que les cœurs soient hauts, mais on en a qu'un. Bon, je sentais juste qu'il fallait que, quand on me le disait, on me le disait souvent, qu'il fallait mettre un peu de joie. Puis avec le temps, j'ai compris que c'était pas seulement une question de sentiment, c'était une question de courage, qu'il fallait essayer d'être courageux, quelles que soient les décisions ou les choses qu'on affronte. Et c'est une phrase qui m'accompagne souvent. Donc quand on m'a demandé une phrase, je me suis dit, celle-là, je l'entends, et je l'entends même de plus en plus dans ma tête.
Et qui va bien à Hélène Barizé, chef d'orchestre de Philharmonie.
Oui, elle a besoin de courage.
Marie-Sophie Ferdan est l'invitée de Musique et moi ce matin pour parler de la série Philharmonia à partir du 23 janvier sur France 2 à 21h. Interprète femme pour commencer donc cette émission avec vous, Marie-Sophie Ferdan. Philomena Moretti qui interprétait donc Les Jeux Interdits de Fernando Sor, qui est un classique de la guitare. Alors évidemment, c'est le film de René Clément, mais c'est cette musique qui a existé au-delà du film, qui nous en a même parfois fait oublier le film. Vous, c'est un souvenir d'enfance.
Oui, c'est le... Je crois que c'est le premier souvenir de musique parce que mon père le jouait à la guitare.
Ouais.
Je pense que ça a déterminé le plaisir que j'ai à entendre les autres jouer, à se dire que c'est une chose assez simple en fait, que la musique c'est juste ça, c'est quelqu'un qui joue, c'est une chose qu'on retrouve dans les soirées après quand on est adolescent ou plus tard. Tout d'un coup il y en a un qui se met au piano ou à la guitare et puis ça crée un lien très fort, une émotion. Moi, quand je rentre en ça, je repense. Oui, j'ai toute l'enfance qui ressaute au visage parce que c'était tout simple. Il n'y avait pas de tralala ou de mise en scène. Il se mettait sur le canapé avec sa guitare. Il jouait comme il pouvait. D'ailleurs, c'était pas la question. Mais tout était dit, voilà.
Et cette enfance, alors, Marie-Sophie Ferdan, elle se passe où ?
À Grenoble, dans un premier temps. Puis après, à la campagne autour de Grenoble.
Et donc, quand il rentrait, c'était dans cet environnement-là. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Est-ce que ça le décontractait, d'ailleurs, de faire de la musique ? Parce qu'on en parle beaucoup de ça.
Oui, il faisait un métier qui l'éloignait beaucoup de la maison. Donc, il partait beaucoup à l'étranger. Et donc, il était assez absent. Et c'est vrai que quand il revenait, je pense que... En tout cas, c'est le souvenir que j'ai gardé, parce que j'étais vraiment toute petite, j'avais 4 ans, 5 ans. Sa façon de revenir aussi vers nous, les quatre filles, on l'attendait beaucoup. Il se mettait au milieu du canapé, puis il jouait, on l'écoutait, voilà, et il était là.
Thank you.
Fasilse interprète l'allegretto de la sonate numéro 17 en ré mineur opus 31 de Ludwig van Beethoven, appelé La Tempête. Et elle a quelque chose de sombre, comme si ce mouvement posait toute une série de questions. Marie-Sophie Ferdan, c'est une sonate d'enfance, je crois, et que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter.
Oui, parce que c'est un souvenir très fort, parce que une de mes sœurs jouait du piano. Enfin, on est quatre sœurs et une fait du violoncelle, flûte traversière, piano. Moi, je fais du violon. Et celle qui joue du piano était la plus musicienne de nous quatre. Elle était vraiment obsédée par la musique. Elle est allée assez loin dans les études musicales. Et La Tempête était le morceau qui l'obsédait. Et je sais que tout le monde craquait un peu dans la maison parce que les voisins, on habite un appartement. Voilà, six, son piano. 2 heures par jour, La Tempête. Au bout d'un moment, on lui disait, faut arrêter, Sandrine. Et ce qu'elle faisait, c'est que du coup, on dormait ensemble et elle continuait à jouer sur mes bras.
Ah, c'est vrai?
J'ai ce souvenir-là. Elle continuait, elle m'expliquait ce qu'elle faisait. Parce qu'elle voulait pas s'arrêter, qu'elle avait pas fini de travailler, qu'elle voulait encore comprendre des choses.
C'était le mouvement, effectivement, des notes qui vont et qui viennent.
Qui s'inversent, elles croisaient. Et moi, elle me fascinait parce qu'elle était... Très, quand elle le faisait sur mon corps, je sentais l'impact de ses doigts sur mon... je le sens encore, ce que c'était cette heure, avant de la comprendre avec les mots, c'était son rythme, sa pulsation, et puis surtout, elle s'arrêtait pas. Et c'est physique pour moi, ma sœur, c'est La Tempête, c'est ce goût qu'on peut avoir enfant... De pas s'arrêter parce que c'est comme une transe en fait, c'est un rythme qui vous prend et même quand c'est l'heure d'aller se coucher, ça continue, c'est physique.
D'ailleurs, il y a un passage comme ça qui se passe dans Philharmonia avec des sourds qui, pour essayer de percevoir la musique, mettent leurs mains et vibratoirement reçoivent ce qui est en train de se jouer. Donc ils mettent leurs mains sur le dos, sur l'instrument, sur le cœur, pour essayer de percevoir. C'est une idée qui correspond exactement à ce qu'on vient d'évoquer.
Mais oui, parce que c'est des vibrations qui passent. Je viens d'apprendre, moi, cette semaine, qu'on a entendu le son que produisaient les trous noirs dans l'espace. Et c'est une chose qui me fascine parce qu'ils expliquent. Moi, j'ai pas tout compris parce qu'il faut, je pense, un niveau en astrophysique et qui est trop fort. Mais qu'à l'origine du monde, de l'univers, possiblement, ce serait le son. Et que cette densité vibratoire aurait créé l'énergie qui a amené la conception de l'univers, de tout ce qui nous anime. Donc c'est furieux le son.
Et quand on sait que Beethoven commençait à être sourd en écrivant cette tempête, finalement tout colle. Thank you. avec La Gare de Montante, extrait de Carmen de Bizet. Ça aussi, c'est l'enfance complètement, Marie-Sophie Verdane.
C'est même mon premier souvenir de spectacle. Parce que ma sœur, toujours, hein, qui...
Sandrine, donc.
Oui, qui chantait... dans ce chœur-là, et du coup, on nous avait emmené, toutes mes autres sœurs et moi, pour l'écouter, et je me souviens que j'étais en pyjama.
Prête à aller au lit après.
Ouais, parce que c'était, elle devait passer vers 9-10 heures du soir, et que j'étais vraiment toute petite, et c'était souvenir un peu, j'étais à moitié endormie, et dans la première atmosphère de salle de concert, d'être là, et tout d'un coup de voir ma sœur chanter, c'était... une chose assez marquante.
Est-ce que vous avez perçu à ce moment-là ce que ça racontait? Est-ce que vous avez, après, écouté l'opéra en entier?
Oui, mais surtout ce que j'ai senti, c'est que des enfants pouvaient faire de la musique pour des grands.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Est-ce que c'est Sandrine qui vous a donné envie de faire de la musique ou vos parents avaient entrepris de mettre un instrument entre les mains de chacune de leurs filles?
Oui, alors ça leur tenait vraiment à cœur que toutes les quatre on puisse étudier la musique. Bon, je pense que dans chaque famille il y a une comme ça un goût, soit c'est le sport, soit c'est je sais pas, être dehors ou faire quelque chose ensemble. Nous, les quatre, ils ont voulu toujours qu'on étudie la musique et nous ont donné cette chance-là. Après, ça prend différemment chez les enfants en fonction des goûts, des tempéraments. Et chez cette sœur-là, c'est vrai qu'elle était, elle aimait ça profondément et elle passait beaucoup de temps à vouloir nous faire jouer ensemble. Parce que c'est vrai qu'après, on habitait à la campagne, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Et elle faisait beaucoup d'adaptations d'œuvres pour nous, pour qu'on puisse jouer ensemble.
Sacrée musicienne.
Elle essayait. Pour moi, la musique, c'était d'abord de jouer ensemble. Alors, jouer des choses très simples, hein, très, très faciles. Mais je pense qu'avec, sans avoir forcément un grand niveau, on pouvait s'accorder et passer du temps à... Moi, c'était des souvenirs merveilleux de voir le temps qu'elle mettait à essayer de nous accorder, à faire des choses. Et ça prenait, donc elle nous a transmis ça et puis elle m'accompagnait beaucoup. Elle faisait du piano, moi du violon. Elle essayait à chaque fois que je puisse jouer des choses qui pouvaient être accompagnées par elle. Donc elle m'a beaucoup poussée, elle me faisait découvrir, comprendre. C'était un jeu, mais un jeu qui allait assez loin, qui durait longtemps.
Thank you.
une réduction pour piano et violon de la danse macabre de Camille Saint-Saëns, interprétée par Laurent Corsia et Mathieu Gonnet. Alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant, votre sœur aurait pu vous le faire jouer, Marie-Sophie Perdane, puisque votre sœur pianiste, Sandrine, vous faisait des réductions, visiblement, essayer d'adapter les œuvres pour
oui,
vous et toute la
mais
famille.
Alors là, c'était dans l'autre sens, parce que cette œuvre, je l'ai choisie parce que c'est le premier souvenir que j'ai d'une œuvre dans laquelle j'ai joué dans l'orchestre.
Ah oui.
Parce qu'au conservatoire...
Donc comme soliste ?
Ah, pas du tout.
Ah, bon,
j'étais 127e violon. Parce que ce qui était génial au conservatoire de Grenoble, c'est qu'on faisait venir les enfants très tôt pour participer à une formation presque symphonique, quel que soit notre niveau. Et que moi, à 7 ans, ils m'ont fait jouer du violon, mais j'étais tout au bout de la ligne et j'avais un pizza à faire toutes les 4 minutes. Et en face de moi, donc de l'autre côté de l'arche, j'avais ma sœur qui était au violoncelle. Et c'est un souvenir très puissant parce que quand c'est déployé en version orchestrée, ça, on a l'impression, même moi, avec 4 notes à faire, c'est ce qu'on parlait de vibration tout à l'heure, mais je faisais partie d'une grande pièce. Et puis, on allait le jouer le week-end, je sais pas pourquoi, mais on prenait le bus et on allait le jouer dans des petites salles de campagne. Et c'était un souvenir. J'étais en tournée, voilà. J'avais 7 ans, je prenais mon violon et on était en tournée et on allait jouer dans les villages. Et c'était extraordinaire quand même qu'ils aient pensé à faire ça, nous faire jouer ensemble des grandes œuvres, même avec un tout petit niveau. Parce qu'après, en grandissant, je me suis rapprochée du chef, j'avançais dans les pupitres. Mais là, j'étais tout au bout. Mais on ne se pose pas cette question quand on commence. On se dit juste, on est dans la musique.
Être dans l'orchestre, c'est vivre la musique, comme vous disiez, à l'intérieur. Vous qui l'avez vécu enfant, on parlait pendant qu'on écoutait la danse macabre de cette frontière parfois qui existe dans la musique classique. Être dans l'orchestre très jeune, j'imagine que ça fait tomber toutes les barrières.
Oui, parce qu'on n'a pas le temps de se poser la question de l'élitisme ou de la classe sociale. C'était un milieu très simple. Le conservatoire est gratuit. Il fallait, voilà, s'il n'y avait pas de difficultés, je sentais pas, en tout cas moi, qu'il y en avait une. C'est pour ça que j'ai toujours abordé la musique classique comme la musique qui ne l'est pas de la même manière. Ça faisait partie des pulsations, des rythmes. Je vois les enfants à la maternelle ou même avant, dès qu'on leur met de la musique, ils bougent, ils comprennent. Le rythme, c'est une chose qu'on peut comprendre sans intellectualisme très tôt.
Thank you.
Raphaël Sévère avec le quatuor Prajak interprète le quintet en si mineur opus 115 de Johannes Brahms dans son premier mouvement. C'est un quintet qui met la clarinette à l'honneur comme si c'était une sonate. C'était de la musique de chambre pour vous, Marie-Sophie Ferdan. C'est ma proposition, comme j'ai coutume de le faire dans cette émission, pour revenir sur le fait de jouer en famille, parce que c'est vrai que ça a eu l'air très important pour vous, et je me demandais jusqu'à quel point ça n'avait pas déterminé ce besoin de la troupe, puisque vous êtes une comédienne aussi de théâtre, beaucoup de théâtre.
Oui, mais sans doute, parce que c'est vrai que je reviens beaucoup aux premières fois, la façon d'aborder la musique ensemble. J'ai jamais pensé que c'était une pratique solitaire, enfin je trouve que c'est un peu plus triste, alors que dès qu'on est en groupe, quelque chose, on s'oublie en fait. Parce que l'appréhension, c'est parfois devant une difficulté technique, c'est de ne pas être à la hauteur, donc d'être trop centré sur sa partition. Alors que dès qu'on est dans un mouvement à plusieurs, il faut d'abord écouter l'autre pour savoir quand je dois partir par rapport à là où il en est. Et on s'oublie. Et c'est dans cet oubli qu'on trouve un abandon qui fait qu'on profite de la musique.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Alors justement, Marie-Sophie Ferdan, puisque vous avez pratiqué beaucoup de musique enfant, pourquoi n'avez-vous pas choisi la musique ? Je crois que vous avez fait des études littéraires, enfin quelque chose, un parcours assez classique, académique. C'est plus tard que vous êtes allée vers le théâtre. Qu'est-ce qui a produit ce cheminement-là, vous savez ?
Non, je sais pas. Je me souviens juste que au moment de l'orientation dans les lycées, quand on vous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'ai dit lire. On ne sait pas faire un métier. Alors je sais pas, j'ai bibliothécaire ou je voulais continuer à rester près d'un monde imaginaire, en fait, d'un monde rêvé plus qu'un monde réel. Et les livres, ça me semblait le meilleur moyen de continuer. Et c'est en voilà, je fais comme vous dites des choses classiques, je suis rentrée à Normale Sup et puis là, j'ai découvert le théâtre parce qu'il y avait un petit atelier d'improvisation dans le gymnase.
Jamais auparavant vous n'aviez fait de théâtre.
Non. Non, c'était une chose qui se pratiquait pas chez moi, on n'y allait pas, je connaissais pas ni le cinéma d'ailleurs. Et quand j'ai découvert ça, ce plaisir d'être ensemble en fait, parce que c'est venu de là, j'ai commencé en faisant des matchs d'impro. Ouais. Où, je sais pas si vous connaissez le principe, hein, on vous donne un thème, il y a deux équipes, un sifflet, une casquette, et puis c'est le public vote. Il faut être très réactif, très rapide, inventer des situations. Et c'est un jeu, c'était un plaisir d'être ensemble. Les années littéraires, c'était des années un peu solitaires, avec les livres, la poésie, la difficulté de cet apprentissage. Et puis tout d'un coup, je pouvais à nouveau jouer avec les autres, et ça m'a donné le goût du théâtre, et puis ça s'est enchaîné comme ça.
Petite chanson, Polly fait comprendre à ses parents qu'elle a épousé un bandit maquis. Eins glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich eins grad, so wie du. Gewiss kommt auch zu mir einmal einer und dann muss ich wissen, was ich tue. Und wenn er Geld hat und wenn er nett ist und sein Kragen ist auch werktagsrein und wenn er weiß, was ich bei einer Dame schicke, dann sage ich ihm nein. Da hielt ich meinen Kopf oben und ich bleib ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nie gleich hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da gab's überhaupt nur Nein. Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent und er war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen und der Dritte, der war nach mir toll. Und da sie Geld hatten und wenn sie nett waren. Und sein Kragen war auch wertags rein. Und wenn sie wussten, was ich bei einer Dame schickt, dann sagte ich ihm nein. Dame hielt sich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht und es könnte gar nichts anderes sein. Ja, da kann man sich doch nie gleich hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ah, da gab's überhaupt nur nein. Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nie bat. Und da hängte seine Hut an der Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war am Sonntag nicht rein, und als er wusste nicht, was ich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Dabei hielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht. Ach, es wird das Boot am Ufer losgemacht. Und es könnte gar nichts anderes sein. Ja, da muss ich mich einfach hinlegen. Ja, da könnte ich nicht sein. Er musste es doch geschehen. Da gibt's überhaupt kein Nein.
Anna Prucknell, interprète d'Air Barbara Song, extrait de l'opéra de Katsu de Kurt Weill, avec une dramaturgie de Bertolt Brecht. Alors voilà, on parlait de théâtre tout à l'heure, Marie-Sophie Ferdan, on est en plein cœur de la théâtralité par la musique. Qu'est-ce que ça correspond à quoi pour vous?
C'est mon souvenir de premier spectacle vraiment marquant auquel j'ai participé, l'opéra de Katsu monté par Christian Schiaretti. Et avec la direction de l'orchestre Jean-Claude Malgoire, on est parti 2 ans partout dans les théâtres, dans les opéras. On chantait en allemand. Et pendant ces 2 ans, j'ai rencontré Anna Prucknell parce que je voulais me perfectionner en chant, enfin, cette façon très particulière de chanter. Et j'ai vu qu'Anna Prucknell donnait un stage à ce moment-là. Donc je suis allée m'inscrire et j'ai passé un mois avec elle entre 2 dates. Et elle dégageait une énergie, une puissance, une singularité qui m'ont beaucoup marquée. Et voilà, c'est un moment assez fort. Et puis Jean-Claude Malgoire, il avait une façon de diriger la musique, de donner confiance aux comédiens. J'étais avec Nadas Rancar, Gashpati, Vladimir Yordanov, de nous donner le courage et puis de la confiance pour chanter. Comme pour de vrai, parce qu'on doit d'abord être des acteurs qui interprétons la pièce, mais la musique est très très importante dans cette œuvre. Tout le monde chante tout le temps. Il fallait y croire, il fallait dépasser la peur. Et il avait ce don avec ce sourire, ce regard, de nous amener à dépasser nos peurs. Donc je garde un souvenir très fort de Jean-Claude.
Et là, on parlait de jouer tout à l'heure. Vous avez joué ensemble avec vos sœurs petites, puis vous avez joué en improvisant, en étant un normal sup. Là, on est dans la dramaturgie chantée. Qu'est-ce que la petite Marie-Sophie Verdun d'enfance a éprouvé en se retrouvant dans ce spectacle ? J'imagine que c'est un...
Ce qui était curieux, c'est que je pense que la musique, au lieu de me faire peur, parce que c'était une difficulté supplémentaire, ça donnait un ton presque familier à l'expérience, qui faisait que je voyais les musiciens dans la fosse, leur quotidien, leur préparation, les répétitions, et que ça me donnait un côté, ça m'a familiarisé, ça m'a presque détendu à l'endroit où je pensais être encore plus stressée, parce qu'il y a des tops, il y a des contraintes, alors que là, je retrouvais une chose presque familière.
Voilà de quoi nous mettre l'eau à la bouche avec ce prélude à la Traviata de Verdi, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Carlo Rizzi. Parce que c'est vrai que quand on écoute ce prélude, on se dit « ça y est, je vais pouvoir voir l'opéra ». Et c'est une musique, je crois, qui apparaît dans ce que vous êtes en train de jouer en ce moment, Marie-Sophie Verdun.
Oui, dans « La Dame aux Camélias » que monte Arthur Noziciel. C'est pas tout de suite, c'est au bout d'une demi-heure. Et c'est un moment que j'aime particulièrement parce que c'est le moment où le rideau s'ouvre enfin, parce qu'on commence le début du spectacle caché, enfin derrière un
pendant
voile.
Pendant une demi-heure, derrière
ouais,
un voile.
Mais il se passe des choses. Hein, ouais. Et puis il y a ce moment de dévoilement, comme si on rentrait dans la fiction. Le rideau se lève et pendant que le rideau se lève, moi je suis de dos. Et il lance cette ouverture. Et chaque soir, c'est aussi parce que l'air frais de la salle rentre directement, donc il fait plus froid d'un coup. Et puis la musique, ça me fait frissonner chaque soir parce que je repense au destin de Marie Duplessis, cette jeune fille de 12-13 ans, prostituée très tôt et qui a accédé aux plus grandes maisons en devenant la courtisane la plus puissante de Paris avant de mourir de l'aphtisie à 22 ans. Et de cette vie de malheur, de chagrin d'une gamine de l'Orne qui avait tout pour passer à l'anonymat. Je me dis chaque soir, mais tu te rends compte, si elle entend ce que sa vie a inspiré à Alexandre Dumas, d'abord dans le roman, puis dans l'adaptation au théâtre, et que ensuite l'opéra, le ballet, et que dans le monde entier, si vous tapez Traviata ou Dame aux Camélias, que ce soit à Sydney, à Johannesburg, à New York, à Paris, il y a toujours, chaque mois, il y a quelque chose qui se joue autour de ce. Elle n'en finit pas d'inspirer, et je me dis que la musique, c'est comme un condensé de. Ça traverse le temps, ça traverse l'espace, et que cette petite vie tellement souffrante, sacrificielle, elle se redéploie soir après soir dans le monde entier. Et c'est une émotion de se dire que l'art peut transfigurer des vies de douleur, des vies de souffrance, en leur donnant une amplitude que nos propres vies n'ont pas le pouvoir de donner. Et c'est chaque fois quand la musique arrive, je me dis, est-ce que tu entends là où tu es, ce que ça a donné, cette espèce de compression de ton cœur, de compression de ta vie, et qui continue de suinter dans la musique et il y a des génies qui se sont penchés sur ton cas et qui ont transformé ton cadavre, hein, puisque c'était, vous savez, dans Dame aux Camélias, on va ouvrir la tombe pour bien vérifier qu'elle est morte, parce que ça semble insensé qu'une femme aussi belle et qui a été tant aimée puisse mourir toute seule dans la fosse commune à 20 ans, abandonnée par tout le monde dans la plus grande misère. Ils ont rouvert la tombe, ils ont sorti le cadavre. Et je me dis, et la musique ou la poésie d'une œuvre dramaturgique, quand elle atteint un grand niveau de puissance et d'émotion, elle redonne vie. Et elle meurt pas, cette gamine, chaque soir, elle sort de la boue de l'Orne et de son bled pour renaître.
Je trouve extraordinaire, Marie-Sophie Ferdinand, à vous écouter, de me dire que la musique, cette ouverture, donne encore une nouvelle dimension à cette personne pour laquelle on a écrit des mots. Vous, qui interprétez des mots avant tout, vous entendre parler de cette autre dimension qu'apporte la musique, c'est fort.
Mais parce que c'est pas la même chose, c'est un prolongement. Verdi, il a réécrit après le livret, mais c'est d'autres mots, mais qui sont sans traduction, voilà.
le bonheur en écoutant cette ouverture de Noces de Figaro de Mozart. Marie-Sophie Ferdan, c'est comme vous le disiez en l'écoutant, vous disiez bah Mozart c'est un génie.
Oui, on sait plus trop comment reste un peu bête pour commenter quoi que ce soit parce que voyez, on a commencé presque à danser en entendant ça, ça marche tout seul.
Ouais. Et c'est donc une ouverture que vous dirigez dans Philharmonia, donc qui sera à partir du 23 janvier sur France 2 à 21h.
Oui.
Vous dirigez l'œuvre et là aussi, alors on a envie d'en parler parce que vous avez repris les gestes et vous disiez c'est pas évident.
Non, c'est une gestuelle complexe, celle de la direction. J'ai été formée par Christophe Dillis
qui travaille ici, peut écouter le samedi matin sur France Musique
et qui est un jeune chef prodigieux qui était d'une patience avec moi extraordinaire parce qu'il venait le matin très tôt ou le soir tard pendant le tournage, les week-ends, et qui a essayé en 4 mois de me donner la précision. On a décortiqué toutes les œuvres qu'on devait diriger et il voulait trouver une gestuelle propre parce que il dit que chaque chef a une façon plastique de s'exprimer, donc il voulait pas me forcer à apprendre des gestes mais de partir de mon
trouver,
corps
en fait.
Oui, voilà. Il était très très rigoureux sur la lecture de la partition et en même temps, il fallait trouver cette ampleur. Donc vraiment Christophe, merci parce qu'il avait cette patience, cette jeunesse aussi de croire que tout était possible, de croire qu'on allait pouvoir donner à voir une femme qui invente une façon de s'exprimer et voulait vraiment qu'on trouve quelque chose de singulier et il a été fabuleux et le moment qu'on vient d'écouter Mozart, c'est un moment très très fort dans la série parce que c'est le moment où Hélène Barizet pour faire travailler son orchestre différemment, qui a des méthodes un peu plan-plan, fait venir un groupe de sourds et leur demande de toucher les musiciens. Et donc, ils sont obligés d'avoir un corps qui les touche pendant qu'ils jouent. Et évidemment, ils ont des réactions très contrastées en fonction de leur tempérament, parce que ça crée une interaction, soit une gêne, soit un plaisir de partager. Mais c'était un moment fort parce qu'on n'a pas eu le temps de le répéter. Et ils sont arrivés tels quels et on a dû improviser quasiment avec leurs réactions, avec leur visage, leur émotion. Et je m'en souviendrai longtemps.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
En vous écoutant, Marie-Sophie Ferdan, je me demande si la production savait, en venant vous chercher pour diriger l'Orchestre Philharmonia dans cette série Philharmonia, si la production savait que vous connaissiez si bien la musique, que vous aviez ce rapport si intime à la musique, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit là ce matin.
Je sais pas, quand j'ai passé l'audition, il y avait beaucoup de scènes à travailler, j'ai voulu apporter mon violon. Parce que c'était indissociable pour moi. C'était pas juste l'histoire d'une femme torturée, complexe, puissante et malade. C'était d'abord une musicienne qui, parce qu'elle est musicienne et qu'elle croit de manière absolue à la musique et qu'elle poursuit un idéal, peut avoir beaucoup de violence et de radicalité parce qu'elle n'a pas le temps de vivre autre chose que sa musique. Alors j'ai joué du violon à l'audition, donc ils ont vu que c'était important pour moi, mais on n'a pas eu le temps de discuter, mais...
En tout cas, ce matin, c'est la démonstration que ça vous va vraiment très bien.
We'll be right back.
Mission impossible de Lalo Schifrin. Alors, c'est la scène de bizutage dans Philharmonia. Marie-Sophie Ferdan, vous arrivez donc comme nouvelle chef d'orchestre et l'orchestre a décidé de vous offrir une œuvre. Et en fait, il vous l'offre pour vous mettre en difficulté.
Oui, je pense qu'ils ont beaucoup joué le titre, hein, Mission impossible. C'est une façon de me dire que j'y arriverai pas, que je suis pas la bienvenue et qu'ils vont me le montrer tout de suite.
Et en vrai, est-ce que vous l'avez vécu comme une mission impossible? Parce que, en l'occurrence, c'est un rythme impair difficile à battre.
Oui, c'est un des morceaux qu'on a le plus travaillé avec le coach parce que justement, je devais avoir l'air très à l'aise, alors que dans la direction rythmique, c'est ce qu'on disait 1, 2, 4, 5, 1, 2. 4, 5. Et il faut être très, très, très détendu et arriver à compter légèrement décalé par rapport à ce qui se dit. Et on voulait, justement, là, il fallait lutter, puisque comme c'est une séance de bizutage où ils essayent vraiment de me montrer que je serais pas à la hauteur, il fallait que j'ai l'air très, très cool, très, très relax, alors que je l'étais vraiment pas. Donc, c'est là où Christophe m'a vraiment fait travailler. Le plus, à la cantine, le matin, dans le métro, tout le temps, il me coachait sur ce rythme.
Alors,
fou.
C'est une série de services publics. Hein. La mission est clairement inscrite, puisque c'est aussi une façon de faire venir le grand public à la musique classique. Alors, on est ravis, parce que ça se passe à la Philharmonie de Paris, France Musique est partenaire, c'est France Télévisions qui le diffuse. Vous, comme mélomane averti, est-ce que vous avez, dans votre vie, ressenti ces frontières qui deviennent compliquées entre les musique et notamment avec la musique classique?
Mais alors, pas tellement. On m'explique beaucoup qu'elles existent, alors je veux pas être d'une fausse naïveté, mais comme je vous disais, comme moi, ça fait partie des choses très simples qu'on m'a données. C'est vrai qu'on me l'a offert enfant, mais sans forcément venir d'un milieu particulièrement... très élevé, oui, non. Donc c'était une chose aussi simple que le sport qu'on fait à l'école. Donc j'ai jamais eu la sensation que c'était une chose qui séparait les gens. Mission impossible. Tout le monde a entendu cet air et on comprend tous à quel point rythmiquement il rentre vite en nous. On a tous envie de battre cette même pulsation. Alors il faut, on dit, démocratiser la musique, mais pour moi elle n'est pas dans une tour d'ivoire, elle n'est pas loin derrière, réservée à quelques privilégiés. Elle est partout, elle est tout le temps, elle est...
Donc vous allez écouter France Musique tous les jours à partir de maintenant.
Thank you.
La marche du divertissement à la hongroise en sol mineur opus 54 de Franz Schubert, interprété par Alexandre Tarot et Su Xiaomei. Marie-Sophie Ferdan, je me suis dit que vous qui aimiez le jeu en commun, voilà, là on était encore sur un quatre mains. Alors, est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est Schubert? Est-ce que ce sont les deux interprètes?
C'est le divertissement à la hongroise, c'est une œuvre que j'ai entendue un jour à la radio. Et ça a été comme un coup de foudre. C'est-à-dire que je me souviens très très bien, c'était sur une route l'été avec la radio qui diffusait ça. Et j'ai depuis évidemment acheté le disque de cette version, donc je vous remercie de la passer. J'arrive pas à beaucoup plus expliquer que pourquoi c'est celle-là qui est l'œuvre que j'écoute le plus. Parce que ça me... Elle s'est fait comme une alchimie entre le soleil qu'il y avait dans cette journée d'août, la voiture, la fenêtre baissée, Schubert, les deux pianos. Et puis c'était comme une évidence qui m'a accompagnée toute ma vie, alors que j'étais pas très âgée quand j'ai entendu ça. Et je continue à écouter, surtout l'Allegretto, beaucoup.
Et donc c'est aussi ce rapport au temps, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ces musiques qu'on a écoutées ont le don de vous remettre... de transgresser le temps, en fait. Hein.
Oui.
Et en même temps, de pouvoir s'écouter dans le présent.
Oui, parce qu'elle... c'est comme des petits bouts d'atomes qui sont intacts en vous. Et puis, quand vous les ressortez, il y a une sorte de radiation très puissante qui est comme une explosion qui part de l'oreille et puis qui envahit tout votre corps. Et c'est difficile de l'expliquer parce que c'est des choses très, très intimes et puis qui sont difficiles à formuler. Mais c'est... comme des morceaux d'éternité qui vous explosent, qui implosent dans votre corps et qui vous... Moi, je sais la couleur de la voiture dans laquelle j'étais. Je revois, il y avait des palmiers le long de la route. Je revois tout, alors que j'ai tendance à oublier tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'entends cet air de Schubert, je sais l'heure de l'après-midi. Je vois le soleil sur le pare-brise. Je vois le palmier. Je vois que je sortais de l'eau. Je vois ma peau avec du sel. Tout est là, comme pour toujours. Et peut-être quand... Quelle est la dernière chose qu'on entend avant de partir, c'était la dernière bande-son, vous voyez, celle qu'on doit avoir dans la chambre d'hôpital. Je me dis, peut-être c'est des successions comme ça de flashs sonores qui font comme un collier qui égrène tous les moments très puissants d'atomes musicaux qui ont jalonné votre vie.
On va se quitter, Marie-Sophie Ferdan, sur ces paroles profondes, avec une interprète qui vous a marqué et qui est d'autant plus marquante et à évoquer là aujourd'hui que elle est chef d'orchestre. Donc, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup observée, si vous l'avez beaucoup écoutée, puisqu'elle est également chanteuse, mais Barbara Hannigan fait partie de vos derniers chocs, je crois, musicaux.
Oui, c'est une femme qui m'impressionne beaucoup. Je trouve qu'elle a une puissance, une radicalité qui est réjouissante et puis qui est une aide. Quand on cherche des chemins comme ça, il a fallu que je me renseigne et m'imprègne pour interpréter cette chef d'orchestre. J'ai regardé beaucoup de choses, des vidéos du temps présent, du temps passé, d'hommes, de femmes. Et puis, quand je l'ai découverte, elle, quelque chose est passé que je ne saurais pas expliquer, mais une flamme, une nécessité à être là. Et j'écoutais aussi ce qu'elle disait, sa façon de parler de la musique, de son besoin.
Il y a ce très beau film de Mathieu Amalric sur la troisième scène de l'Opéra de Paris sur Barbara Hannigan.
C'est presque au bout du monde. Et elle est extraordinaire. Donc on sent qu'elle... on parlait de radiation, mais elle est incandescente, cette femme, quand elle parle de la musique. Elle a donné toute sa vie à la musique. Et c'est des figures comme ça qui sont comme des phares. Quand on avance comme ça pour interpréter, on est un peu parfois perdu. Il y a tellement de possibilités d'interprétation. Elle m'a un peu servi de guide parce que je trouve qu'elle est puissante, singulière et qu'elle a tout donné. Qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de... Et qu'est-ce que je ferais de ma vie si ça ne marche pas ? Elle est la musique.
On va se quitter avec elle. Oui. Merci beaucoup Marie-Sophie Ferdan d'être venue participer. Je rappelle que vous êtes sur France 2 à partir de mercredi à 21h. La série s'appelle Philharmonia. Kennst du das Land de Hugo Wolf, sur des poèmes de Goethe, interprétés par Barbara Hannigan et Reinbert Deleu, pour terminer cette émission en compagnie de Marie-Sophie Ferdan, donc, qui était l'invitée de Musique et Moi ce matin pour évoquer notamment la série que l'on verra à partir du 23 janvier sur France 2, la série Philharmonia, et vous avertir également que le Classic Club de Lionel Esparza sera consacré à Philharmonia le 22 janvier prochain, la matinale de Saskia Deville le 23 janvier et bien sûr beaucoup d'autres rendez-vous à retrouver tout au long de la journée, dont Carrefour de l'Odéon. Frédéric L'Odéon apparaît dans la série et c'est absolument délicieux de le voir, de voir cette voix derrière un micro de France Musique. Je voulais aussi vous remercier à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter France Musique, 1 109 000 auditeurs par jour. Bravo à tous, merci à tous de nous suivre ainsi. Je remercie Julie Garraud qui était à la prise de son ce matin, Sophie Pichon et Marie Ferdinand comme d'habitude, les personnes qui entourent cette émission hebdomadaire. Dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec Martin Penney pour Tour de Chant. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. À dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.